Ok, test de micro, fait. Les enceintes fonctionnent. Pourvu que ça l'arsène pas. T'imagines ? Les dimanches, ça... L'arsène, super.
Alerte, alerte.
Bon, tu dérives là, focus. Alors, les enregistreurs... Eh ben, ils enregistrent. Ah, les personnes sont installées, elles sont arrivées. Elles me regardent. Souris. Ça, tu sais faire. Tu souris. Cool, décontractée, accueillante. Bah ouais, accueillir, c'est ton métier. Le sourire en bannière. Pour mettre tout le monde à l'aise, pour qu'il et elle se sentent bien en confiance.
Alerte, alerte.
Panique. Souris. Non, là, c'est bizarre. Bon, fais style que tu es occupée. Alors, mes petits réglages. Oh, un câble XLR. Un petit RCA. Voilà, 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 voilà. La technique. Alan, c'est bon, je le vois. Il est pas loin. Merci, Alan. Bon, c'est l'heure. Va peut-être falloir y aller, là.
Alerte, alerte.
Stress, stress.
Panique.
Fuir, s'enfermer dans les toilettes et regarder en détail tous les dessins de Paul Lecal.
Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit.
Non. Allez. Respire. Encore. Et on y va. Tu pousses le curseur.
Allez, go, 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 go.
Ah bah, les dimanches... les dimanches...
Les dimanches
les dimanches, je... Ou alors on... Alors, les dimanches...
Bah, les dimanches...
Les dimanches.
Ça plaît. Sonore au théâtre.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc au théâtre des Clochards Célestes pour Les Dimanches, ça plaît. On va passer une heure ensemble, une heure d'écoute. Donc j'espère déjà que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Une heure d'écoute avec des petits sons, des rencontres, de la musique, mais j'en dis pas plus. Cette émission est enregistrée, elle sera rediffusée dans le cadre du Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2. Et donc, je parle du Théâtre de la Gamelle et je suis accompagnée d'Emmanuel Méring.
Bonsoir.
Emmanuel Méring qui fait aussi partie et qui est à l'origine du projet J'ai été ma propre route. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ?
Oui, alors J'ai été ma propre route, en fait c'est un projet de lecture d'autrice, exclusivement, d'un maximum de pays possibles, à condition qu'elle soit traduite en français, et de toutes les époques. Donc on commence à peu près en 4300 avant Jésus-Christ, pour aller jusqu'en 2019, et des autrices extrêmement récentes. Il y a une partie live, donc on fait des lectures régulièrement, sur des thématiques qui dépendent de la saison, du temps, des envies. Vendredi prochain, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais samedi, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et du coup, vendredi prochain, on fait une soirée de soutien à cette lutte. Donc on lira des extraits d'autrices qui en ont parlé, d'une façon ou d'une autre.
Et c'est juste à côté, en plus.
Et c'est juste à côté, c'est au Popcorner. Dimanche, on fait un ciné-lecture sur les femmes oubliées du cinéma, celles dont, qui ont écrit les histoires originales de grands films, mais c'est des films d'hommes, quoi. Les oiseaux, c'est de Hitchcock. Peu de monde sait que c'est Daphné du Maurier qui a écrit. Mary Poppins, c'est un film de Disney, évidemment, alors que c'est pas Mela Travers qui a écrit. Et il y a énormément de films comme ça, donc on projette les extraits des films et on lit les textes originaux en parallèle. Et avec tout ce projet live, il existe également un blog sur lequel on lit des, on est trois lectrices à lire des extraits qu'on publie à peu près tous les deux jours, sauf quand j'ai une angine, ce qui était le cas cette semaine, donc il n'y a pas eu de publication. Et actuellement, on a déjà publié 265 autrices, voilà, pour vous donner envie de les découvrir et de les lire dans tous les genres de publications, donc autant des romans que du théâtre, de la poésie, des BD, des essais aussi. Voilà.
Parfait, merci beaucoup, Mamie.
Avec plaisir.
Et justement, on a récemment accueilli une autrice, Marie Mattei, qui a présenté Les Nuits Intérieures avec la compagnie, enfin, le collectif Demain nous fuirons. Donc je vous propose d'écouter ce qu'elle en pense d'être autrice.
Aujourd'hui, on dit ça, on dit autrice, donc je suis autrice. En fait, pour le moment, moi, alors ça va être un peu étrange ce que je vais dire, mais mon combat, c'est d'arriver à ce que je sois reconnue comme étant quelqu'un qui écrit pour le théâtre. Parce qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être, pour qu'on dise, autrice ou auteureux. Moi, j'ai cette sensation-là, c'est que quand on est une femme qui écrit pour le théâtre, ben voilà, il faut aussi donner la parole forte à des personnages féminins, travailler la question du féminisme, etc. Et moi, je trouve que... Moi, je n'y arrive pas. Alors, j'admire celles qui arrivent à le faire, mais parce que je ne me sens pas les armes pour. Et je me dis, bon, voilà, moi, si je peux apporter ma patte à quelque chose, c'est de dire que les femmes peuvent écrire autre chose que des choses qui concernent les femmes. Et c'est vrai que, ouais, j'ai l'impression que... Moi, je trouve ça dur d'écrire des personnages féminins. Je trouve ça très difficile. Très difficile parce que si c'est quelqu'un qui est radical, on va dire, elle est folle. Alors que si on écrit un homme radical, on ne va pas dire qu'il est fou. Si c'est une femme qui subit des choses, on va dire, oui, c'est encore un truc victimaire. Et donc, on réduit encore la femme à cette posture de victime. Je trouve ça très, très compliqué. En fait, on va dire que moi, je me bats pour faire... De mon écriture, on dit souvent que c'est une écriture masculine, par exemple.
Mais c'est horrible.
Oui. Ah, bah oui, parce que aussi c'est vrai, peut-être parce que la femme n'est pas au centre, ou pas totalement au centre, même si elle a une place centrale, et aussi parce que c'est vrai que c'est très âpre, c'est très scalpé, quoi. Comme si on imaginerait que la femme, il faut que ce soit, qu'elle écrive d'une façon hyper, je sais pas, j'exagère, hyper poético, lyrico, je sais pas trop quoi. De toute façon, j'ai l'impression que pour écrire sur les femmes, il faut être un homme. De toute façon, un homme qui va écrire un truc sur les femmes, ça va être sublime, magnifique. La femme peut faire exactement la même chose. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, elle ne va pas être entendue de la même façon. Et c'est bien pour ça aujourd'hui que les textes qui parlent des femmes, il y a pas mal d'hommes qui s'y mettent dessus et c'est ceux-là qu'on entend en priorité, par exemple. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, quoi.
Écho. Écho sonore au théâtre.
C'est bon, les gars ? Ouais, il y a... À Paris et à Londres, le premier roman de George Orwell. Eric Blair ne voulait pas utiliser son nom pour rester incognito dans ses immersions dans les quartiers populaires. Le livre est publié en 1933. Orwell est né en 1933. Orwell est né en 1933. Orwell est né en 1933. George Orwell est né en 33
janvier.
Hitler est nommé chancelier. Construction du Golden Gate. Orwell est né en 33
mars.
King Kong sort au cinéma. Le camp d'Achaux vous ouvre les bras. Orwell est né en 33.
Mais
les nazis brûlent des livres à Berlin. Wallis descend les trois petits cochons. Orwell est né en 33
juin.
Joseph Staline affame l'Ukraine. Au New Jersey, on ouvre un drive-in. Orwell est né en 33. Par les nazis. Naissance de Roman Polanski. Orwell est né en 33
octobre.
La Société des Nations dit au revoir à l'Allemagne. Il y a les phalanges fascistes en Espagne. Orwell est né en 33
34
Orwell publie une histoire birmane. Début de la grande marche de Mao. Moscou construit son métro. Hitler serre la main Mussolini. Grande purge en Union soviétique. Orwell est né en 33.
35.
Orwell publie une fille de pasteur. Hitler réarme l'Allemagne. Franco est de retour en Espagne.
Thank you. Francis, Orwell, pardon, les villes minières. Il va au nord de l'Angleterre, écrit sur les classes populaires. Orwell se marie avec Irene, il pense rester tranquille, mais l'Espagne entre en guerre civile. Orwell se marie avec Irene, il pense rester tranquille, mais l'Espagne entre en guerre civile. Je me suis marié à l'été 36, et à la fin de cette même année, je suis parti en Espagne.
Donc vous venez d'écouter un écho sonore de la pièce Orwell 1 et 2 qui était présentée par la Klein Corp. Et maintenant, je vais vous parler d'Alan. Alors Alan, vous le connaissez, c'est le régisseur du théâtre. Et cet été, j'ai voulu aller le voir. Et cet été, il était dans les alpages. Il a tronqué ses câbles, ses consoles, ses micros, ses enceintes pour s'occuper des brebis. Donc je vous propose d'écouter ce son.
Je m'improvise un petit peu cet été. C'est la première fois vraiment que je suis qu'on me laisse être berger totalement. Mais je vis avec mes parents qui sont. Enfin, j'ai vécu les estives avec mes parents qui sont bergers depuis que je suis tout gosse. Quoi. Moi, j'ai fait mes premiers pas en montagne, donc ouais, depuis que je suis bébé, je suis en montagne avec eux au milieu des brebis, quoi, et dans des cabanes en altitude.
On est où là ?
On est donc dans le Trièves, au sud Isère, pas très loin de Lamur, donc autour de la montagne de l'Obiou.
Col de l'Aiguille, 1,8 km.
Moi, ce qu'ils écrivent pas trop sur ces panneaux, c'est le dénivelé, et c'est vrai que c'est un peu plus ça qui compte en montagne finalement.
Et là, on va monter combien de dénivelé ?
Jusqu'au col, on a entre 250 mètres et 300. Mais ça picote un petit peu parce que c'est vraiment à pic qu'on les monte. Ouais, ça demande de choper une bonne hygiène de vie pour arriver à tenir le coup. Et encore maintenant, c'est vrai qu'il y a deux postes sur poste de berger, donc t'as quand même une journée de repos par-ci par-là. Mais c'est vrai que à l'époque où il n'y avait pas le loup déjà, ma mère, elle était seule en poste, et donc c'est elle qui montait seule tous les jours. Et c'est vraiment... Faut être accroché, quoi. C'est des métiers qui peuvent être un peu difficiles et un peu usants.
Je crois que c'est un des premiers matins où j'ai pas envie qu'on me parle.
Donc lever en général aux alentours de 5 ou 6 heures, ça va dépendre des cabanes. Celle-ci, sur cet alpage là, elle est placée à 1h15 de marche de là où est le troupeau, donc on va se lever évidemment 1h15 plus tôt pour les faire sortir du parc de nuit.
C'est trop beau.
Ouais, je vais avoir du coup tout le lever de soleil pendant qu'on va monter et tout.
Après, donc, on va passer la journée avec elles. Donc, le matin, en général, elles sont pleines d'énergie. Elles ont tendance à marcher un peu, à aller chercher des endroits où elles aiment bien manger. Ensuite, aux alentours de midi, selon le temps qu'il fait, elles vont chômer. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont se rattrouper les unes à côté des autres et mettre la tête sous le ventre de l'autre pour chercher l'ombre et la fraîcheur. Et pendant ce temps-là, elles vont ruminer. Donc, c'est-à-dire remâcher l'herbe qu'elles ont mangée dans la matinée. Et ce temps de chaume peut durer différents temps en fonction du temps qu'il fait, justement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il fait assez chaud. Elles ont tendance à chômer 3 voire 4 heures. Par contre, les jours où il pleut ou les jours où il y a du brouillard, tout ça, où il fait plus frais, là, elles ont tendance à chômer 1 heure, voire des fois quasiment pas.
Pendant une estive, pendant 4 mois, tu es vraiment loin de tout ce monde-là. D'ailleurs, d'ici, c'est très drôle parce que tu peux vraiment regarder le fond de la vallée, les petites voitures qui s'activent, la vie du village, t'entends un peu. T'entends tout comme si tu étais observateur de tout ça. Mais tu vois tout en petit, donc je sais pas, c'est... C'est assez rigolo à regarder. Ouais, puis il y a un truc qui est rigolo, je me suis rendu compte quand en revenant ici, quand j'étais... j'ai passé pas mal d'années ici étant enfant, et quand je reviens ici en montagne, je me rends compte que j'ai vraiment pris l'habitude de donner une certaine valeur aux choses de simples de la vie. Genre une plaquette de chocolat. Habituellement chez toi, tu vas la dégommer en 5 minutes, et puis bah voilà. Alors que quand t'es en montagne et que tu l'as porté pendant 3 heures sur ton dos, et que t'arrives au milieu, c'est que t'as eu une journée difficile, tu vois ta plaquette de chocolat comme ton ami qui te tend la main. Tu l'apprécies différemment, quoi, et tu l'as fait durer un peu plus. Donc je sors aussi un peu de forme de consumérisme qui nous entoure un peu tout le temps, quoi.
On a perdu les brebis ?
Non. Non, elles sont pas bien loin, mais bon. On les entend, c'est qu'elles doivent pas être par là, mais c'est toujours un peu stressant quand tu les vois pas de bon matin. Bah, c'est ça aussi. Vu qu'elles sont en liberté, tu sais jamais trop où tu vas les retrouver le matin, à quelle heure elles ont commencé à manger, tout ça.
Alan, tu peux m'apprendre comment on appelle les bêtes ?
Donc, comme je disais tout à l'heure, je n'assume pas du tout. Je les fais vraiment quand je suis tout seul et que j'ai pas d'autre choix que d'appeler le troupeau. Et voilà, mais en gros, ouais, c'est juste des sons qui reprennent un peu leur bêlement et qui vont les intriguer puis les faire venir. Alors, venez !
On dirait l'accent stéphanois.
Ah, c'est vrai, tiens. Ouais.
Venez !
Non, tu vois, tu fais venez ! Tu casses un peu ta voix comme ça.
Venez !
Voilà, un peu comme ça.
J'ai tout donné.
J'ai vraiment appris à force d'écouter mes parents, hein, ça pour le coup. Et après, tu peux faire des trucs un peu aigus, genre yibibibibibi !
Yibibibibibi !
Ah, puis il y a aussi la technique du roulement dans la gorge, là, genre.
Ça sert à quoi ?
Bah, tu les fais un peu à la suite, et des fois, il y a des trucs, tu vois, ça les fait plus réagir, et des fois, ça leur fait lever la tête comme ça. Puis au bout d'un moment, t'en as une qui vient, une deuxième, et après, t'as tout le troupeau qui suit. Après, il y a plein de... C'est un peu régional, hein, aussi. Selon les régions, t'as vraiment des... Selon les vallées aussi, t'as des gens qui les appellent différemment. Ou alors, des fois, ils appellent une bête, spécialement. Parce qu'il y en a une bête, des fois, elle se reconnaît avec son nom.
Roseline, viens ici.
Donc voilà. On a retrouvé ces brebis qui étaient... En fait, c'est juste que tu peux pas les voir de loin, quoi. Il y a des petits creux comme ça dans la montagne et tu vois rien du tout. C'est pour ça que j'ai un peu flippé, mais ils ont été gentils. Ça fait plutôt plaisir de voir ça, parce que d'habitude, quand elles sont toutes seules, en général, elles ont tendance à marcher vite et passer d'un endroit à l'autre. Et là, elles sont vraiment bien étendues. Et c'est un peu le but, quoi, quand elles sont étendues comme ça, c'est que vraiment, t'as tout le monde qui est en train de manger. Et ça profite bien. Le biais des bêtes, c'est une expression que j'ai reprise de mes parents. Mais en gros, c'est pour parler des habitudes des bêtes. Par exemple, quand on les sort le matin, on sait que leur habitude va être de partir dans telle ou telle direction parce qu'elles savent qu'à tel ou tel endroit, elles auront de l'herbe qui sera meilleure, et tout simplement parce qu'elles connaissent l'endroit. Et donc, c'est aussi pour ça qu'un alpage, il sera peut-être plus dur la première année qu'on y est. Parce qu'il faut apprendre à connaître le fonctionnement des bêtes, leurs habitudes. Alors que dans les années qui suivent, on connaît vraiment ce fameux biais des bêtes. Et donc on peut vraiment prendre le temps de... On peut savoir par exemple que si on envoie les brebis dans telle direction, elles reviennent une heure plus tard parce qu'elles se seront renvoyées naturellement vers nous. Et du coup je donne à manger au patou. Oula, doucement. Et bah ouais, vu qu'ils sont un peu loin des bergeries et tout, ça veut dire que tous les jours, il faut leur amener un sac de croquettes, puis les faire manger. Sinon après, ils commencent à essayer de revenir là-bas, donc ils quittent le troupeau, et après le troupeau est plus défendu. Oui, parce que pour rappeler, les patous, c'est des chiens qui sont élevés au sein du troupeau. Et la grosse différence avec les chiens de berger, c'est que eux, ils vivent tout le temps avec le troupeau. Et ils apprécient vraiment les humains, mais ils sont vraiment pas dressés pour autre chose que pour défendre le troupeau en cas d'attaque. Et nos chiens à nous, ils servent vraiment à aller effrayer les bêtes pour justement les renvoyer dans un autre sens ou les empêcher d'aller quelque part.
Le gamin, je crois qu'il est heureux que quand il va au troupeau.
Quand même plus habitué que nous à courir dans les montagnes.
Oh, petit patou. Bonjour.
Coucou toi.
Ton truc, c'est les coups de boule, hein.
Ah oui.
Ouais, elle est gentille, mais elle est vraiment brute, quoi.
Ah oui, elle est brute. Alan, pourquoi certains, ils ont des colliers en clous?
C'est pour les protéger des loups, pour éviter qu'ils se fassent égorger. Mais c'est vraiment pas drôle, parce que quand ils viennent te faire des câlins, ils te mettent des grands coups de clous dans les jambes, puis c'est pas très agréable, quoi.
Oh, le soleil.
On va chercher ces pierres à sel. On va prendre le sel, on met vraiment par poignée, comme ça, sur les pierres. Et en général, peu importe où t'es, t'as toujours des pierres à sel. Des grosses pierres plates qu'on ramène comme ça pour déposer le sel dessus.
Pourquoi? Ça sert à quoi le sel?
Alors, c'est un genre de complément alimentaire et ça sert aussi à ce qu'elles conservent un peu plus l'eau dans leur tissu. Et ce qui est assez utile parce qu'elles n'ont pas d'abreuvoir ici. Donc, elles n'ont pas d'abreuvoir ici et donc c'est un... leur seule façon de boire de l'eau, c'est avec la rosée du matin. Quand elles mangent, dessus, ça leur fait leur réserve d'eau pour la journée.
Il y a moyen qu'elles nous foncent dessus avec si on leur met du sel là.
C'est vrai?
Ah bah ouais, ça fait un moment qu'elles n'ont pas mangé, elles doivent être trop contentes.
J'aimerais peut-être faire ce métier un jour, après, là je le fais comme ça pour en remplacement de ma mère, c'est un peu exceptionnel. J'en ferai pas mon métier à vie, mais c'est vrai qu'un été, l'expérience d'un été, c'est vraiment un moment qui fait du bien autant pour soi que... Enfin surtout pour soi quand même, c'est vrai. Moi j'apprécie vraiment le fait de se retrouver seul un moment, confronté à soi-même, et puis dans certains moments d'avoir aucune autre distraction que d'observer ce qui nous entoure.
Merci beaucoup Alan.
Et en ce moment, au Clocher Céleste, nous accueillons la parabole de Gutenberg, un texte de Léa Carton de Gramont par la compagnie Prends-toi un mur si t'es vivant. Et comme vous pouvez le voir autour de vous, ça parle, alors pas que, mais d'impression. Et donc, j'invite Lucie Auclair qui vous propose de faire un frottage. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un frottage? Est-ce que tu peux nous en parler, Lucie?
Alors, un frottage, c'est une technique qui permet de récupérer le relief de quelque chose qu'on positionne sous la feuille de papier. Et donc le principe, c'est qu'on applique quelque chose qui est gras et qui va se déposer principalement sur les points qui ressortent de cet objet. L'exemple qu'on connaît le mieux, c'est la feuille morte ou la feuille d'arbre qu'on fait frotter aux enfants sous une feuille de papier ou alors la pièce de monnaie. Voilà. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée par les surréalistes, notamment Max Ernst, qui a fait des paysages très très beaux à partir de cette technique-là.
Ok, super, merci. Alors, est-ce que quelqu'un, quelqu'une, a envie de se faire frotter?
Moi, je veux bien.
Allez, viens. Tu t'appelles comment?
Clémence.
Tu es prête?
Oui. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais...
Est-ce que tu es bien enfoncée dans ton siège?
Oui.
Elle va décoller.
Ça fait pas mal.
Ben voilà.
C'est bon? C'est hyper étrange.
C'est
hyper
étrange.
Mais
n'hésitez pas, c'est jusqu'à demain la parabole. Donc si vous voulez venir vous faire frotter, c'est l'occasion. Merci beaucoup. Et donc on continue avec les échos sonores du théâtre avec Love Manifest et Barbe Bleue.
Quand tu veux. Je vais te parler du magnétophone à bande, le Revox B77, sur lequel j'ai fait une boucle sans fin. La bande tourne sur elle-même, ça me permet de faire des boucles.
Alors on peut enregistrer Radio Canine 102.2,
par exemple. Et puis après, il va nous le redonner, s'il est
sage. Radio Canine 102.2.
Voilà, donc ça s'est enregistré en boucle, là, il va me le répéter plein de fois. Et ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est qu'on peut jouer sur la vitesse de défilement de la bande.
Radio Canine 102.2.
Voilà, on peut jouer sur les vitesses. Radio Canine 102.2. Après, on peut faire quoi d'autre de rigolo avec ça?
Radio Canine 102.2.
Donc on fait passer le son de droite à gauche, on crée un delay comme ça.
Radio Canine.
Et on devrait arriver à avoir un truc où il n'y a plus du tout la phrase au bout d'un moment, quoi. On fait vraiment du travail de matière de son avec ça.
Radio
un autre mode qui est intéressant avec ces magnétos, c'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire qu'on le fait boucler sur lui-même. La sortie son, on la re-rentre dans une des entrées et on va voir ce qui se passe. Ça peut faire très mal aux oreilles. Attends, je vais baisser. Voilà, ça fait ça. Attends, je vais baisser. C'est complètement débile, mais c'est une possibilité. Après, moi, je m'en sers beaucoup avec. Je m'en sers beaucoup parce que autour de tout ça, j'ai des synthétiseurs, par exemple, qui rentrent dans une table de mixage et je peux assigner n'importe quel instrument que j'ai dans le Revox.
Est-ce que tu peux faire quelque chose que tu fasses dans Love Manifest?
Eh ben, dans Love Manifest, qu'est-ce que je fais j'enregistre beaucoup de voix, quand même, avec le magnéto.
Love Manifest. L'imagination est une chose que certaines personnes ne peuvent même pas imaginer.
Écho sonore au théâtre.
Alors, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc au théâtre des Concerts Célestes. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Très bon spectacle à vous.
Bonjour.
Vous voilà.
Oui, vous voilà enfin.
Arrivé ici.
Assis.
Confortable.
Dehors ?
Le temps s'est arrêté. Et aujourd'hui...
Oui, aujourd'hui...
Nous allons vous raconter...
une histoire.
Et pas n'importe laquelle !
C'est entrée !
Démente.
Névrosée.
La plus tremblante.
La plus sordide des histoires.
Il était une fois...
Barbe bleue !
Edda, de Sigrid Carré-Lecoindre. De l'amour.
Lui, il l'aimait, ça lui donnait un rôle à jouer, une place dans ce monde. Et elle, elle aimait qu'on l'aime. C'est pour ça que ça fonctionnait. Elle l'aimait aussi pour ses tartes aux myrtilles et pour l'électricité de son regard. Elle l'aimait parce que il lui réapprenait à parler, parce qu'il la rendait belle et qu'il l'impressionnait. Et lui, eh bien, il aimait qu'elle le regarde dormir. Il savait qu'elle faisait ça, la nuit. Il s'amusait à feindre un sommeil profond, parsemé de ronflements excessifs. Et alors qu'elle se penchait un peu pour observer le trajet nerveux de ses paupières, d'un coup, d'un seul, il se relevait en poussant un cri de lion en rut. Elle hurlait. Et puis, ils riaient ensemble. Il disait que c'était peut-être comme le hockey, qu'avec un peu de chance, la peur ferait disparaître le bégaiement. C'est étonnant ce que chacun s'invente. Comment l'amour commence, avec ses codes, ses tics, ses démangeaisons secrètes, ses adhésions implicites, comme il se crée sous la vie qui recouvre, sous le réel et le poids de son joug. C'était une histoire d'amour, comme il y en a tant, avec ses booms et ses bangs, ses autoroutes sucrées, ses banalités à pleurer, ses souvenirs reconstruits sur les ruines d'un oubli de raison. Quand on ouvre les yeux, 2000 ans plus tard, une histoire, avec ses particularités sombres, ses joies éphémères à ne pas dévoiler, à protéger du grand jour, de la révélation. On devrait se méfier des débuts, même si c'est aussi ça, l'histoire. Vous vous souvenez? Ces allers-retours, ces butées, ces courses jambes au cou d'un coup, ou ces ralentissements de raison pour espérer peut-être juste éviter qu'elle arrive, l'histoire, avec l'immensité de son désordre. Elle adorait l'aimer, il adorait qu'on l'aime. Et peut-être, juste, qu'il s'emboîtait pile poil comme il faut, ou bien qu'il s'ennuyait au même endroit, au même moment du monde, et que c'était là leur véritable point commun. La véritable raison de leur rencontre. Et peut-être que ce n'est pas une raison suffisante, mais qui peut véritablement savoir ça? Qui peut seulement juger ça? Ils s'aimaient. Ils inventaient leur contrat de base, leur référent commun. L'endroit depuis lequel, ensuite, il agirait, il s'agirait toujours de parler.
Nouvelle femme.
Il faisait une fixette sur les talons aiguilles. Il était persuadé qu'avec des talons aiguilles, enfin, pas forcément aiguilles d'ailleurs, parce que l'important, c'était surtout la hauteur. Donc, il était persuadé qu'avec des talons hauts, elle marcherait au-dessus du monde, et que, par conséquent, le monde serait à ses pieds. Logique. Et puis...
Est-ce qu'une éditrice peut sérieusement continuer à marcher avec des baskets? C'est quoi ça, une éditrice en basket? Non, sans rire, ça ne veut rien dire, c'est... Quoi? C'est rien. Qu'est-ce que tu penses que vont se dire tes clients? Que tu es cool, branché? Ben non, pas du tout. Ils vont juste penser que tu n'es pas crédible, pas fiable, trop détendu ou je ne sais pas trop. Sportswear à cas péril. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois marcher tête haute, au-dessus des toits du monde. Si tu veux qu'on te respecte, c'est pas difficile. Tu mets des talons.
Ok. Ça, c'est vraiment le genre de réflexion hautement spirituelle de quelqu'un qui n'a jamais marché sur 8 cm. Ou alors, peut-être maximum 3 minutes à la suite d'un pari débile dans un salon en fin de soirée. C'est vraiment le genre de réflexion qui n'a aucune idée de ce que c'est de déambuler seul dans les rues sans fin, en pleine nuit, paniqué au moindre klaxon, au moindre rapprochement à sa perspective, sans pouvoir courir parce que, précisément, on porte des talons. Bref.
Je dis ça pour toi. Tu fais bien ce que tu veux.
Oui, évidemment, mais...
Si ce que tu veux, c'est que l'on te considère comme on me considère, si tu veux qu'on te respecte, tu as un rôle à jouer. Tu ne peux pas te plaindre d'une situation et ne rien faire pour l'éviter. C'est à toi de te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Eda, ça veut dire combat. Eda, qu'est-ce que tu crois? Que je suis devenu ce que je suis en un jour? C'est un travail de longue haleine de bâtir un homme. C'est ta responsabilité d'imposer le respect. Si tu n'y arrives pas, si on te piétine, c'est aussi ta responsabilité. Il faut que tu apprennes à mériter ce que tu projettes de toi, ce que tu désires être, ce que tu désires devenir. Comme on mérite les regards des gens sur soi posés, en un sens, comme aussi on reçoit les insultes que l'on mérite, ou qu'on mérite l'amour ou l'estime. Il faut que tu mérites l'estime. Tu comprends, Eda ?
Pierre après pierre.
Elle avait douté, parfois. Mais elle s'était prise au jeu. À force d'accepter toutes les règles l'avaient propulsée au-devant d'elle-même. Elle avait tout joué, tous les coups, les uns après les autres. Elle avait accepté les propositions d'impro, de match, de catch. Et ça l'avait rendue solide. Elle s'était hissée à la hauteur de son nom. Et elle avait vu changer les regards, avait appris à reconnaître, à valoriser ses forces et à camoufler un peu plus ses faiblesses. À ne pas laisser sa maladresse ou son bégaiement la submerger. Elle écrivait ses discours, les apprenait par cœur, pour ne pas se perdre dans les méandres hoquetants de sa propre parole. Elle contrôlait son image. Et, petit à petit, pierre après pierre, ajoutée à l'édifice de son nom, il était de plus en plus fier d'elle. Il la trouvait chaque jour un peu plus désirable et il la façonnait à sa guise. Et sa guise lui convenait. Chasse le naturel. Lui, qui avait aimé chez elle précisément cette différence qui la rendait unique, voilà qu'il tordait le monde pour la faire entrer dans le moule d'une femme type, d'une femme totalement fantasmée correspondant à son désir initial, global, au-delà de leur histoire, de toute histoire. Il la faisait entrer dans le moule générique de la longue lignée de ces femmes levées soirée après soirée. Et ça fonctionnait. Elle se pliait au jeu. Elle se mettait à correspondre. Et peut-être que ça lui plaisait à elle aussi, de voir cet homme l'aimer de plus en plus, la traîner de rendez-vous en dîner d'affaires, vantant à qui voulait l'entendre les mérites de son évolution professionnelle. Sa beauté maladive, compulsive. Elle lui donnait foi en lui-même. Elle le valorisait, et sans doute avait-elle l'impression qu'il faisait de même, pour elle, qu'il lui donnait foi en elle-même, qu'il la valorisait. Et puis...
Soirée éditoriale.
Et puis, il y a eu la parution de ce livre, de cette fameuse soirée. C'était un travail d'équipe, bien sûr, une réussite pour tout le monde, à tous les niveaux. Pour la maison d'édition, évidemment, qui avait vu ses ventes augmenter en une semaine... Mais pour elle, qui avait joué un rôle central dans la sortie du bouquin, c'était bien plus. C'était la reconnaissance de ses efforts, la concrétisation réelle de cette promotion qu'on lui avait accordée. Elle avait fait ses preuves. Elle pouvait en être fière. Et donc, il y avait eu cette soirée. Et lui. Eh bien, c'était la première fois qu'il était invité à la maison d'édition, qu'il se déplaçait sur les lieux de son travail à elle. C'était la première fois qu'il était au second plan, que les rôles étaient inversés et qu'il entendait dans toutes les bouches.
Ah, nous n'avons pas été présentés. Vous êtes ? Ah, le compagnon d'Eda.
Au fur et à mesure de la soirée, il s'était décomposé. Un sentiment étrange l'avait envahi, comme si, petit à petit, lambeau, après lambeau de peau, de veines, de graisse, d'organes, son corps se dissolvait sur lui-même. C'était... un effondrement intérieur, une chute invisible, il perdait l'équilibre. Alors, une nausée monstrueuse a commencé à prendre possession de lui. Une nausée qu'il n'arrivait pas vraiment à s'expliquer, mais qui rendait chaque seconde insupportable, presque insurmontable. Il se sentait inutile, vide, dépossédé de quoi ? Il ne comprenait pas les rires et les traits d'esprit,
les codes de cette nouvelle société qu'il rencontrait pour la première fois et dans laquelle il ne semblait pas avoir véritablement de rôle à jouer, si ce n'est celui, terrifiant, de compagnon, d'Eda. Il ne savait plus à qui parler et de quoi, il ne savait plus pourquoi il était là. Et puis, ils sont rentrés, il est allé se coucher tout de suite, sans un mot. Il était très triste, et sa tristesse à lui la rendait triste, elle, gâchait un peu ce moment qui était le sien.
Le dîner.
Non, non, ça fait des années. D'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours plus ou moins bégayé. Le premier mot qu'elle m'a adressé le soir de notre rencontre... Non, pardon. Le premier mot était un sourire. Mais donc, le premier mot que je l'ai entendu prononcer, c'est... Pardon. Tout un programme. Bon, je dois bien avouer qu'à l'époque, je trouvais ça plutôt mignon. C'était son acharnement que je trouvais irrésistible, sans doute. Vous trouvez ça horrible ? Ça l'est, certainement. Aujourd'hui, pour être honnête, ça peut m'agacer assez vite. Le problème, c'est surtout d'attendre. Attendre quand tu as mille trucs à faire et que tu as déjà compris où elle voulait en venir, mais qu'elle n'y arrive jamais. Tu vois ? Attendre. Par respect ou je sais pas quoi, qu'elle la crache, sa Valda. Parfois, c'est vraiment insupportable. Mais bon, je l'aime. Oui, voilà, exactement. Elle est capable de réciter un discours entier sans se tromper. Et puis, pour une petite phrase anodine, un détail, une question imprévue comme ce soir sur la recette de son plat de courgettes, eh ben, il n'y a plus personne, en fait. Ouais, c'est ça. Faudrait tout lui écrire.
Le premier coup. Quel mot prononcer ? Je sais pas. Nous étions dans la chambre. Nous venions de faire l'amour, comme d'habitude, sans doute. Quel geste ? Ce que j'ai dit ? Ce qui a eu lieu ? Là ? Aucune idée. Je n'arrive pas à me souvenir précisément. Je me rappelle seulement l'impact sur mon œil gauche. Et tout de suite après, sous la peau, la chaleur du sang. Infernale et brûlante.
Ça fait des brouillages de fusains aux oreilles. Des sifflements devant les yeux, c'est... Un silence vicieux. Une insulte étrangère, ça a un goût dégueulasse. Et la fragrance humide des fleurs qui tombent moites sous le soleil écrasant d'août. Quand tous les pétales, d'un coup, se détachent. Flof. Pour frapper le sol d'un bruit sourd. Ça s'accompagne toujours d'une révolution totale des systèmes solaires, lunaires, lymphatiques et vasculaires. C'est un coup de poker. Le premier coup. Un coup de pied dans la table, une chute brutale du plafond ou des cieux, le rappel violent des parfums de l'enfance, les fenêtres trop hautes, le ciel si loin, ça rouvre toutes les fractures, les poignets cassés aux étés de balançoire, les disparitions de grand-mère, de petits chats, la destruction de la première cabane, nous revoilà pleurant sans larmes, tous nos petits deuils, seuls au sommet de l'implosion générale de l'instant. Le premier coup, on sait... qu'il n'a pu se passer qu'une seconde, qu'on a dû perdre les pédales une seule seconde, qu'un choc électrique d'origine indéterminée a peut-être cramé une synapse au plus profond de la boîte crânienne ou qu'à l'échelle de l'univers, un ensemble de réseaux a vrillé, produisant l'extinction brutale des feux. Et alors, sans doute, dans l'intervalle, on a raté quelque chose comme la raison de tout ça, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres le premier coup. On n'y croit pas trop, on se dit que c'est une lubie, un mirage. Et puis, que non, c'est sûr, c'est un accident et on va se réveiller parce que rien ne justifiait un tel raz-de-marée, suivi du désalignement brutal de tous les sillons personnels, de toutes les sensations d'ancrage. On croit toujours que c'est une erreur. le premier coup, qu'on a dû se tromper. On était là. Pourtant, on était bien là. Et puis la seconde après, pfft, la géométrie globale de la pièce bascule. Les planchers chassent les murs. Le poing avec le bras embarque visage, lampe, canapé. C'est un désabordage, un dessalage à sec. On a de l'eau dans la bouche, de l'eau dans la gorge. On déborde de dedans, en dehors, et puis plus rien. Tout, d'un seul coup, prend un goût d'absence. On était là pourtant. Pourtant, on était bien là.
La valise.
Bien sûr, elle a fait ses valises. Regardez l'homme droit dans ses yeux défaits. Elle a refusé d'admettre, elle aussi. Elle a refusé de tomber tout de suite, bien sûr. La première fois, elle a pris sa valise. Elle est restée peut-être 2 heures dans la salle de bain pour préparer ses affaires. Mettre ses culottes, ses t-shirts, son livre préféré, ses chaussettes en vrac dans un sac. Mais quel sac? Quel sac choisir quand on s'en va? Quel sac pour une rupture? Un désastre, c'est quoi? Un sac à désastre. Alors, elle a changé de sac et recommencé, culotte, chaussettes, livre, parfum, et au moment de mettre sa brosse à cheveux dans le sac, le nouveau sac, au moment de faire ça, elle a paniqué. Elle s'est figée d'un coup. S'est assise sur la cuvette des toilettes et puis machinalement, elle a enlevé tout ce qui se trouvait dedans. Parfum, livre, chaussettes, culottes. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle a regretté. Elle a eu peur ou pitié. Quelle différence d'ailleurs. D'un revers de main, elle a essuyé son œil, réajusté ses cheveux. Elle a fait comme s'il ne s'était rien passé. Seulement, elle s'est tue.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.
Es la historia de un amor.
Volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo,
malo.
J'ai trop envie de continuer.
Ouais. Est-ce que tu peux juste me dire un mot de ce que tu as ressenti à la sortie du spectacle?
Ouais, en un mot, ça va être compliqué. Humain.
Femme.
Un spectacle fondateur.
Je veux dire que c'était très puissant.
Des mots, je sais pas, mais des images plein la tête, ça oui.
Waliki, je vais bien.
Sarah Christian.
Et Rémi Blasquez.
Transmission, Chola, c'est resté.
C'est la lutte.
Waouh. Qu'est-ce que je pourrais dire?
Tandem, incarnation, présence.
Moi j'ai envie de dire. Clarté,
atmosphère.
Beaucoup de curiosité.
Cool.
Niños, bienvenidos. La clase acaba de comenzar.
Este es un perreo de esos que te vuelve loca. Este es un perreo de esos que te vuelve loca.
Comment on dit quand on a plein d'informations d'un coup mais qu'on n'a pas encore le temps de les analyser?
Saturé.
Ouais, saturé, mais pas dans une connotation négative en fait.
Thank you.
esto es un poco de la vieja escuela.
C'est un mot transporté, vraiment déplacé dans le temps et dans l'espace, ouais. Très vivant, très incarné.
Comment on dit quand on est parasasie, tu sais, quand on en voudrait plus
affamé.
On reste sur sa faim un peu, qu'on en veut plus.
Écho sonore au théâtre.
J'ai besoin de toi. Je t'ai pas enregistré pour Périterition, donc piqûre de rappel.
Qu'est-ce qu'il faut que
non,
je dise?
Non, je sais. Ah, j'ai posé la question, pour toi, le théâtre, c'est nécessaire?
Non. Si.
Oh la vache. C'est marrant, c'est la question de mon solo, mais je fais mon solo parce que, justement, j'ai pas la réponse. C'est l'inutilité du théâtre qui fait qu'il faut le garder. Que c'est important du fait qu'il soit inutile. Il faut garder des choses inutiles, sinon on fait que des trucs utiles et on s'emmerde. Par contre, on parle de l'utile. C'est bien ça.
J'aime bien.
On finit là-dessus.
Très bien. Merci beaucoup, Cédric.
Ça va encore?
Ouais.
On va écouter le dernier son qui se trouve être une interview de Marie-Madeleine Balofé, qui est interprète en langue des signes. Il travaille régulièrement ici au théâtre, donc je vous laisse la découvrir.
Quand je traduis et que je vois mes mains qui s'expriment, et je me dis, mais comment ça peut être possible? C'est incroyable, c'est une danse des mains. Je m'appelle Marie-Madeleine Balofé. Mon métier, c'est interprète en langue des signes française et français. J'ai eu envie d'apprendre la langue des signes par amour des langues et par fascination de cette langue où sans un mot, on pouvait communiquer. Et ça, pour moi, c'était magique. J'ai appris à passer d'une langue orale avec une éducation d'entendante à une langue où le corps participe et il faut lâcher son éducation première pour changer complètement de manière de s'exprimer. Les expressions du visage indiquent la tonalité des locuteurs parlants, la vitesse des mains indique l'intention des locuteurs et le corps participe à la grammaire de la langue. Par exemple, le buste, s'il est dans l'axe du corps, on parle au présent. S'il est un peu en arrière, on parle du passé, proche ou lointain. Et si le corps s'incline un peu vers l'avant, on est dans le futur, dans les projections.
Bonjour, je m'appelle Louise. C'est là, en fait, il faut parler avec les mains.
Ma nièce apprend la langue des signes à l'école. Je lui ai demandé si elle pouvait me montrer.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Joyeux?
Ouais, par exemple.
Je tourne ma main sur mon ventre, mais pas vraiment sur mon ventre. Et triste, on met sa main comme ça, bosse. Bosse, bosse, bosse. En fait, on fait des bosses avec sa main.
Tu les mets où, tes mains?
Je les mets sur mon front et ma gorge.
C'est la gorge, ça, ou c'est le menton?
Le menton.
Interpréter, c'est aussi prendre le rôle de la personne avec ses émotions, avec son dire, avec son vouloir dire. Et donc, ça m'a amené petit à petit à avoir envie de travailler avec le théâtre. Et entre les acteurs, les actrices et les interprètes, on a un peu le même métier, entre guillemets, hein, avec toute modestie gardée. Eux et elles interprètent un personnage. Et nous, interprètes, on interprète l'acteur ou l'actrice qui joue un personnage. C'est-à-dire qu'on a deux personnes en nous à interpréter. Cette langue des signes, moi, me permet de dépasser le trac, me permet de mettre de côté plein de choses et d'être dedans, enfin... Avec la concentration et cette langue, on peut pas ne pas être dans l'instant présent, ici et maintenant. Et le trac n'a pas sa place. Donc pour travailler avec le théâtre, on a besoin, enfin moi j'ai besoin, et je pense que tous mes collègues seront d'accord, on a besoin d'avoir du texte, le texte en amont pour préparer. s'imprégner du texte et avoir vraiment les intentions et de l'auteur et de la personne qui va interpréter. C'est un travail de mise en scène et de répétition, de calage pour arriver au plus près du sens, du vouloir dire et du message qui va être transmis. Si message il y a. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est toute la préparation en amont. Et en principe, les comédiens, les comédiennes sont d'une générosité pas possible. Donc on a tout le loisir de préparer et même de préparer avec eux et elles.
Pour dire pleurs, on met ses mains en faisant comme des larmes. Comme des petites larmes. En colère, c'est comme ça. On fait comme des lions, puis après on fait comme ça. Les griffes de mon ventre.
Ok, il y a des outils pour réparer un peu l'oreille, entre guillemets, style appareil auditif, implant cochléaire, mais qu'il y a quand même un besoin de langue des signes, parce que les enfants qui sont implantés, qui sont appareillés, sont, s'ils n'ont pas la langue des signes, sont un peu entre deux mondes pour se construire psychologiquement, psychiquement. S'ils n'ont pas tous les moyens de communication, ils vont rester sur ce fil au milieu des deux mondes sans savoir de quel côté ils vont tomber. Et quel que soit le côté dans lequel ils tombent, ils ne seront pas les bienvenus parce que pas assez entendants et pas assez sourds pour signer. La langue des signes a été interdite pendant 100 ans suite au congrès de Milan en 1881. Où les Européens se sont réunis sans qu'il y ait une personne sourde au sein et où les langues minoritaires ont été interdites. Donc le breton, le basque et bing, la langue des signes. Donc pendant 100 ans, dans les écoles, les sourds avaient les mains attachées dans le dos avec interdiction de signer, il fallait oraliser. Parce que la langue des signes, c'était une langue de singe, etc. etc. Ce style de remarque acerbe. Et donc, c'est pas très très vieux que la langue des signes soit de nouveau autorisée en public. Et ça date de 1991.
En 2005, la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière. Aujourd'hui, elle continue d'être un objet de lutte pour les personnes sourdes militantes. Une langue pas assez diffusée, une langue encore dévalorisée au bénéfice de l'oralisation, et surtout une langue encore peu accessible.
On est totalement militant puisque on est dominé aujourd'hui.
Anthony Guyon, artiste sourd, directeur de la compagnie On Off, traduit de la langue des signes au français.
Un enfant entendant aujourd'hui qui va naître, on va lui apprendre le bébé signe, vous savez, pour qu'il ait quelques petites notions de langue des signes. On trouve ça très mignon dans la majorité entendante. Par contre, on interdit la langue des signes aux enfants sourds. Les étudiants lycéens ont aujourd'hui l'option langue des signes au bac, alors que les étudiants sourds, eux, ne peuvent pas avoir de langue des signes au cœur même de leur enseignement. Voyez bien les paradoxes.
Alors, pour que la diffusion de la langue des signes soit effective, il faut compter sur les médias, sur les cinéastes, les réalisateurs. Parce qu'il y a en France des comédiens et des comédiennes sourdes. Et pourquoi pas les intégrer, comme le fait le NTH8 à Lyon. Pourquoi un réalisateur va chercher des personnes entendantes pour jouer des rôles de personnes sourdes alors qu'il y a un vivier de comédiens et comédiennes sourdes? Et comment ne pas penser à mettre la langue des signes sur tout ce qui est journaux télévisés, sur tout ce qui est émissions culturelles, politiques. Là, il y a un manque énorme, un retard énorme de la France.
Et on découvre que la langue des signes a sa poésie, son verbiage et ses hérésies. Allez-y, signez, boléro de langage, trouvaille qui engage, on a là la preuve que la beauté du monde ne dit jamais son dernier mot. Du bruit, avec les doigts ou avec la voix, peu importe, tant que la vie trouve le bon aloi, alors signez. Criez, secouez vos existences avec tous vos sens.
Ça, ça veut dire Louise ?
Oui. On fait un papillon.
Pourquoi on fait un papillon ?
Parce que je voulais que ça soit comme ça, mon signe. Je les accroche avec les pouces, puis après je fais voler mes mains. J'aime bien les papillons.
Là, dans ce documentaire-là, vous avez pu entendre Ghislain à la fin. Ghislain fait partie du cercle des poètes à la rue. Et j'ai envie d'inviter un autre slameur qui est présent ce soir à venir poser aussi son texte, parce qu'il a également écrit un texte sur la langue des signes, donc Nos, si tu veux venir.
Donc c'était en écho un peu à Ghislain. On a fait un duo dans un spectacle qui s'appelait « Des mots des murs ». Je m'appelle Louis. Et ce paradoxe peut te laisser sans voix. En effet, à tes appels, je n'ai ni réagi, ni sursauté. Car si comme toi je suis né sur cette terre, je suis né sourd. C'est tout. C'est tout ce qui nous différencie. Toi, tu as tes mots, l'audition. Moi, le silence et mes différents signes. Parfois, j'y ajoute quelques vocalises. Pas le genre de bruit qui semble te mettre à l'aise. Car j'y tiens, je suis né sourd, pas muet. C'est juste que je ne verbalise pas. Sourd et muet, beaucoup ne le réalisent pas, ce n'est pas comme jour et nuit, ce n'est pas si noué, c'est même presque inouï. Petit, comme vous, j'ai bien crié à la naissance. C'est face au langage que mon espoir de parole est devenu évanescent. Il n'y a pas eu de suite à mes balbutiements. Quelques sons, oui, mais pas le bon ciment. Pas de papa. Pas de maman, pas de véritables mots émanants, et à la clé, un si mauvais moment. Verdict de l'ORL, dans mes oreilles règne un désordre bien réel. De fait, mon verbal s'en trouve très impacté, tu parles d'un pactole. Médusé, désabusé, mes parents non préparés ont ainsi réagi. Notre fils est sourd, mûr. Quelques sons, donc presque muets. Mur. Ce murmure fut une chute hautement difficile. Et c'est comme ça que vos mots sont devenus mes murs. Sur vos lèvres, je passe mon temps à essayer de les deviner, quand dans ma bouche, on se demande ce qu'ils sont devenus. Entre vos phrases et mes tympans, c'est dressé une palissade. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas que je suis polisson, c'est juste que je ne vous entends pas. Alors, plutôt que de crier, utilisez vos mains et signez.
C'était Nos. Un petit jingle pour finir.
Ah bah les dimanches.
Les dimanches.
Les dimanches.
Les dimanches. Ou alors on.
Alors les dimanches.
Les dimanches.
Les dimanches,
ça plaît. Écho sonore au théâtre.
C'était Les dimanches, ça plaît. Un grand merci à Emmanuel Mering, Noé Reboul, Alan Vigourou, Lancelot Rétif, Martha Spinou, Louise Vigneault, Antonin Cognet, Nos, Ghislain, Marie-Madeleine Balofé, Louise, Lucie Auclair, Manon Amor, Luigi, toutes les équipes accueillies au Clochard Céleste et bien sûr les auditrices et auditeurs de cette émission. La prochaine session des Dimanches s'appelait aura lieu le 19 janvier prochain.